Et nous accueillons Anne-Claire au 3921. Bonsoir Anne-Claire.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Nous allons bien, nous allons bien.
Vous allez bien ?
Nous nous battons, nous allons bien.
Alors, vous allez me dire, Anne-Claire, de qui vous parlez, puisque nous allons bien, c'est vous et qui d'autre ?
Alors, ce soir, donc, je vais discuter avec vous, avec vos auditeurs aussi, concernant l'affaire du viol de ma fille Marie, à l'âge de 18 ans, viol commis il y a 42 mois à Clermont-Ferrand.
D'accord.
Donc, sera débattu dans ce sujet, on va dire, une partie de ce qui lui est arrivé, tout ce qui s'est passé aussi dans le cadre de l'enquête, de la procédure et surtout ce refus de justice. Mais je débattrai aussi sur un sujet où il y a eu un mandat européen lancé contre moi l'année dernière pour me mettre au silence sur le viol de ma fille que je dénonce et évidemment ça dérange.
Alors,
à savoir
va,
que je vous appelle de Majorque.
D'accord, on va faire, si vous le voulez bien, on va essayer de faire ça dans l'ordre parce qu'à mon avis, nous avons beaucoup de choses à aborder ensemble. Mais avant d'arriver à cette interdiction et le fait que vous nous appeliez ce soir de l'étranger parce que vous devez, pour votre sécurité, votre liberté, appeler de l'étranger, tout d'abord, qu'est-il arrivé à votre fille il y a 42 mois ?
Il y a 42 mois, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2017, ma fille Marie, étudiante en faculté de droit à Clermont-Ferrand, a été violée.
D'accord. Dans quelles circonstances tout cela s'est-il passé ?
Alors, les circonstances, hein, je ne m'étalerai pas trop dessus puisque nous sommes dans la procédure, évidemment. Tout simplement, c'est abject. Voilà, tout simplement.
Dans quelles circonstances, dites-moi.
Elle a eu confiance en une jeune fille qu'elle connaissait depuis le lycée.
D'accord.
Elles ont décidé de se revoir. Donc, cette jeune fille lui a dit « J'ai deux amis que j'emmène avec moi ». Ma fille lui a dit « Non, je ne les apprécie pas. Ils étaient au lycée, je ne les apprécie pas ».
D'accord.
Et là, en réalité, Marie est descendue de chez elle. Voilà, elle a attendu sur le trottoir que son amie, cette jeune fille, arrive. Mmh. Les deux garçons étaient là juste avant. Évidemment, elle ne les a pas fait monter, puisqu'elle, en tant que jeune fille, elle a sa sécurité par rapport à son éducation, par rapport à tous les risques aujourd'hui qui, malheureusement, on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit.
Oui.
Et donc, cette amie va arriver. Ils vont tous les quatre monter dans son appartement. Et là, malheureusement, la soirée passe, ils discutent. Il y a une poudaille de rosée que cette jeune fille, donc cette soi-disant amie, a ramenée. Ma fille ne boit pas d'alcool. Elle consomme pas d'alcool d'ordinaire. Hein. C'est une jeune fille qui fait des études. Une jeune fille qui, en plus de ça, savoir quelques années avant, a une leucémie orpheline doublée de la maladie de Kawasaki. Donc son foie peut être touché par toute substance de ce genre-là. Et donc, elle va quand même accepter de boire un peu de rosée, même si elle n'aime pas ça. Et là, va se passer ce qui se passe. Tout simplement, le blackout.
Le blackout.
Le blackout. On saura, dans le cadre de l'enquête, qu'ils l'ont emmenée dans une boîte de nuit.
Oui.
Voilà, elle aura des flashs. Un état où qu'elle décrira d'ailleurs aux enquêteurs, à son avocat et à nous-mêmes, où elle a cru mourir. Elle se voit dans les toilettes de cette boîte de nuit en train de mourir. De penser très fort à sa mère, mais de mourir. Et après, elle se voit tomber dans la rue, être ramassée par quelqu'un.
Oui.
Et elle ne se réveillera au total, 12 heures après.
Est-ce que vous pensez, en tout cas, est-ce que vous supputez ou soupçonnez que votre fille ait été droguée par l'intermédiaire du GHB, cette drogue du viol ?
Alors, GHB, je vais vous dire franchement, on a énormément travaillé. La chance que nous avions, c'est que nous connaissons des gens dans des laboratoires, par notre clientèle, comme nous étions hôteliers-restaurateurs à Superbès. Donc, en réalité, on a énormément étudié le sujet du GHB. Tout le monde parle du GHB. Il n'y a pas que le GHB.
Oui.
Vous avez la kétamine. Vous avez énormément de produits qui mettent dans ces états-là. À savoir que Marie, par son état de santé, donc la leucémie orpheline et la maladie de Kawasaki, a un organisme qui est systématiquement différent d'un organisme d'une personne qui a toujours été en bonne santé. Donc, en réalité, même pas deux mois après cette affaire, Marie va être hospitalisée d'urgence à l'hôpital d'Issoire.
D'accord.
Là, son estomac, son foie ne supportent plus rien. Immédiatement, les médecins, suite à des examens, vont nous dire « a-t-elle pris telle substance ?» Donc, je ne peux pas parler trop de cette affaire, mais Marie a bien été mise en soumission chimique. Donc, je ne prêterai plus ce terme-là, pour ne pas nommer ce qu'a eu Marie, et surtout aller directement dans l'affaire.
D'accord, mais bon, il y a quand même des détails importants dans ce que vous avez raconté à Natacha. Et ça, on va être obligé de l'aborder. C'est que l'auteur des viols, visiblement, a été attrapé par la police et a reconnu à deux reprises le viol.
Alors, à savoir qu'il n'a pas été attrapé par la police. D'accord. Là encore, il faut savoir une chose, c'est que ma fille va mettre plus de 24 heures à émerger.
D'accord.
À prendre conscience. Elle est dans un état second. Elle va donc se rapprocher de ses amis au téléphone qui vont immédiatement se rendre chez elle. De là, ses amis vont immédiatement appeler le commissariat, donc de Clermont-Ferrand. Là, le commissariat, et c'est ça qui est très grave, c'est que le commissariat va leur dire immédiatement, cette personne au téléphone au standard, emmenez-la à l'hôpital. Ils vont donc traîner Marie, qui est encore dans un état complètement, je dirais, de sidération, mais surtout, elle ne comprend pas, elle n'est pas encore en phase, elle n'est pas encore réellement réveillée et en phase avec ce qui se passe. Elle sait ce qui s'est passé, elle a des douleurs, elle sait surtout, et surtout l'état de sa chambre. On ne fera pas plus de détails, ce qui s'est passé. Donc, à l'hôpital, ils arrivent donc à l'hôpital, là, ils sont refoulés. On leur dit, mais on ne peut pas la prendre pour un viol, lui faire le kit de viol, il n'y a aucune donc, désignation faite par la police, il n'y a pas de dépôt de plainte. Mm-hmm. De là, ils repartent au commissariat. Ils vont arriver avant 18h. On va mentionner qu'on ne peut pas prendre le dépôt de plainte parce qu'il est pratiquement 18h. Là, évidemment, moi, quand j'apprends ça,
quelques semaines
après, je vais m'assurer, nous ne sommes pas à la poste. Voilà, donc les services sont ouverts H24 normalement. Donc, elle va être reçue par un brigadier, pas un officier de police judiciaire, mais un brigadier, qui va donc, sur une feuille de papier, prendre quelques notes et donc contacter les unités médico-judiciaires, donc la victimo, puisqu'on l'appelle comme ça, pour qu'elle soit reçue. Elle va y aller. Évidemment, la violence, là-bas, se reproduit, puisqu'il faut savoir une chose, c'est qu'une victime de viol, vous ne pouvez pas lui mettre un homme médecin qui arrive et lui dit « écarte les jambes ». Vous imaginez le choc? Donc, en réalité, elle va avoir examen sanguin, urinaire, mais elle est dans un traumatisme. Elle n'écartera pas les jambes, si je peux me permettre ces propos, pour le kit de viol. De là, l'enquête va commencer. Elle ira donc, le lendemain, déposer plainte, donc en nommant son violeur, les personnes présentes dans son appartement. Elle expliquera toute l'affaire. On se dit évidemment, elle a déposé, il est identifié, il va être interpellé et aura à répondre de ses actes. Mmh. Évidemment, c'est ce que nous pensons. Nous croyons en la justice. Nous sommes des citoyens. La justice, c'est pour tout le monde. Et résultat, tout ne va pas se passer comme ça. Donc, déjà, ce jeune homme va être entendu, mais vous savez que quand une personne est interpellée, on lui demande sa filiation, le nom de son père, le nom de sa mère.
Oui.
Là, l'identité de la mère va être inconnue. C'est-à-dire, il n'y a rien sur la mention de la mère. À savoir aussi que l'identité du père va être falsifiée. Excusez-moi, c'est le chien. Donc, ça va être un autre prénom. Mais surtout, l'adresse ne va pas être la bonne. Voilà où nous en sommes. Et là, évidemment, ça continue dans l'affaire. Moi, 2 mois après le viol, je suis en rapport avec ce brigadier. Je le rencontre pendant 2 heures. Et là, je vais vite comprendre qu'en réalité, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas du tout d'enquête.
Et pourquoi, votre
Donc, pendant
avis,
deux heures, ça va être... Eh bien, c'est la grande question qu'on se pose. Mais nous, entre-temps, durant ces 2 mois, nous avons fait énormément de recherches. Nous avons mené notre enquête. Et surtout, nous commençons à comprendre que tout va être fait pour étouffer le viol.
Alors, on va marquer...
Ceux qui ont violé Marie.
On va marquer une pause, si vous le voulez bien,
Anne-Claire.
Et puis on va continuer à parler ça et vous allez nous dire pourquoi, à votre avis, tout ça a été étouffé, d'accord ?
À tout de suite.
Nous sommes pour le moment avec Anne-Claire qui nous raconte dans quelles circonstances sa fille, il y a 42 mois, alors qu'elle était en fac de droit à Clermont-Ferrand, a subi une agression, un viol, et que depuis, l'enquête semble plus que balbutier, Anne-Claire. Vous disiez qu'il n'y avait pas d'enquête, qu'on était en train d'étouffer l'enquête. En tout cas, que vous vous étiez rendu compte de ça. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi ?
Alors, le pourquoi, nous allons le découvrir plus tard dans le mandat européen dont je vous parlais, qui a été donc lancé à mon encontre, par rapport aux écrits du procureur de la République de Clermont-Ferrand, où il aura inscrit dans ce mandat d'arrestation, où d'ailleurs j'ai soi-disant des armes et qu'il faut m'interpeller et me supprimer mes armes, où je suis terriblement dangereuse, qu'il faut m'enlever mes chiens, mon fils. Donc, il marquera dans cette procédure que je suis une personne dangereuse puisque depuis 2 ans et demi sur le territoire français, je menace le fonctionnaire de police qui a diligenté, donc qui a mené l'enquête du viol de Marie. Je le menace régulièrement, donc depuis 2 ans et demi sur le territoire français, menace de mort, harcèlement, etc., etc. À savoir, je suis depuis 2018, mars 2018, résidente à Majorque. Donc, vous vous doutez bien que je ne peux pas faire les faits. D'ailleurs, ça a été prouvé, ça a été jugé. J'ai été reconnue innocente par la justice espagnole mallorcaine, qui évidemment a tout fait pour avoir des explications sur ce mandat européen. Mais surtout, ce procureur de la République écrit, qui demande mon interpellation et mon jugement, et que je sois ramenée donc, en France, parce que ma fille a déposé plainte donc, pour son viol contre un inconnu. Vous entendez bien, c'est marqué noir sur blanc, vous l'avez ce document, je vous l'ai envoyé. Et d'ailleurs, il est aussi sur ma page Facebook où je dénonce ça. Comment un procureur qui a classé l'affaire de Marie en 3 mois, on a fait appel à ce niveau-là, celui qui a été nommé est repassé dans les services de police, une autre enquête. Il n'y a pas eu les fadettes au niveau des prélèvements, à savoir que dans une enquête pour un crime de viol, les ADN priment sur n'importe quel élément. Donc, où sont les ADN?
Dites-nous, Anne-Claire, oui, parce que c'est un peu du charabia pour les gens qui écoutent. Il vaut mieux que vous nous expliquiez l'enquête. Je suppose que votre fille va porter plainte. Donc devrait commencer une enquête. Ou est-ce que le fonctionnaire de police qui la reçoit prend la plainte?
Il n'y a pas eu d'enquête.
Ça veut dire qu'on n'a pas cru? On n'a pas cru votre fille?
Non, il va prendre l'enquête. Au départ, nous pensons qu'il est compétent, qu'il est sérieux, il va prendre l'enquête. Il va convoquer celui que Marie a nommé. Il va convoquer ceux qui étaient présents, cette jeune fille, ainsi que le deuxième garçon qui est ami avec celui qui est donc dénoncé pour le viol, qui a donc été retrouvé le matin dans le lit de Marie et qui s'est sauvé en courant, on va dire. Voilà, quand il a vu que Marie émergeait. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils vont être entendus. Mais très vite, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que quand je le rencontre 2 mois après, on ne va pas demander les fadettes.
Qu'est-ce que les fadettes?
Alors, les fadettes, c'est-à-dire, c'est la demande auprès des opérateurs téléphoniques, des enregistrements, ainsi que toutes les communications qu'il y a pu avoir par message.
D'accord.
Le viol de Marie a été filmé. D'accord. Apprenant ça, évidemment, je lui donne l'information. Nous avons un élément qui prouve ce que je dis. Dès l'instant que je lui présente sur le bureau, donc nous sommes dans l'enquête, 2 mois après le viol, enfin même pas 1 mois après le viol, là, il y a une sorte de malaise. Mais malgré ça, malgré cette preuve qui est évidente, rien ne va être fait. C'est-à-dire qu'au niveau des ADN, quand les laboratoires vont passer dans l'appartement de Marie, ils ne vont pas aller prendre les ADN dans le drap. Ils ne vont pas faire ce que normalement on fait. Ils sont sous l'autorité de ce brigadier qui leur dit « vous faites ça, vous ne faites pas ça ». Alors que, logiquement, les laboratoires d'expertise sont libres. Un brigadier n'est pas apte à savoir et à diriger les laboratoires.
Bah, en tout cas, bon, on peut, quand il s'agit d'un viol et que c'est une chambre d'étudiante ou un appartement d'étudiante, on peut logiquement aller prélever les premiers éléments pour l'ADN dans le lit, à mon avis. Mais bon, ça paraît logique. Mais bon,
exactement.
Je dis ça.
Bien sûr. Donc, il n'y aura pas les fadettes, il n'y aura pas tout ça, exactement. Donc, il n'y a rien de probant, enfin bref. Ça dure et ça dure, mais par contre, il faut savoir une chose. Quand j'ai rencontré ce fonctionnaire de police, 1 mois après le viol, donc pendant 2 heures, nous allons discuter. Il est plus en train de prendre des notes de ce que nous pouvons savoir. C'est-à-dire, toutes les ramifications que nous avons pu faire dans cette affaire. Pas le scénario, mais ce qu'il s'est passé. Nous avons la preuve qu'ils ont emmené Marie dans une boîte de nuit, après lui avoir fait ingurgiter alors qu'elle était déjà en blackout. Pourquoi l'ont-ils emmenée là-bas? Nous avons, nous, la réponse, c'est dans le cadre de l'affaire, nous ne pouvons pas bien sûr en parler à l'antenne. Mais à savoir une chose, c'est qu'ils vont la ramener dans son appartement, elle sera violée, encore. À savoir une chose, c'est que je donne tous ces éléments à ce fonctionnaire de police. Mais à savoir une chose, dans la presse La Montagne, à cette époque-là, quand je donne cette information, il faut savoir que la brigade des stupes surveille cette boîte de nuit. Dès l'instant que je donne l'information à ce fonctionnaire de police en lui disant « De toute façon, ils ont conduit ma fille là-bas, systématiquement, il y a des fichiers photos déjà de la sécurité de la boîte de nuit, les caméras.
Oui.
Il y a aussi donc les stupes qui sont là donc pour surveiller. Si vous regardez dans le magazine, donc le journal La Montagne, trois jours après, évidemment, est marqué que les stupes étaient là, etc., 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 et qu'ils ont fait une enquête sur les stupéfiants, etc., etc. On sent que là, il y a beaucoup de choses que j'ai déclenchées. Mais il faut savoir qu'à la fin de ces 2 heures passées avec lui en audition volontaire, avant de prendre l'ascenseur, il me regarde droit dans les yeux et me dit « L'affaire de votre fille sera classée, avec une froideur absolue. » Il me dit « Vous pouvez connaître qui vous voulez, jusqu'au président. » L'affaire sera classée.
Pourquoi vous dit-il ça, à votre avis ? Est-ce que ça s'est mal passé entre vous ? Est-ce que votre ton lui a déplu ? Est-ce qu'il vous donne plus d'explications sur ça ? D'abord, ça s'est mal passé pendant ces 2 heures ?
Non, déjà, quand je suis arrivée au commissariat, j'étais attendue pour 9 heures. Donc, je descendais de super belle, 50 km. On est l'hiver. Donc, évidemment, il fait froid, il y a du gel et il y a de la neige. Donc, il m'appelle, il est 9h pile. Je lui dis, je suis là dans 2 minutes, le temps que mon conjoint garde la voiture. Donc, je suis déposée devant le commissariat. Mon conjoint part garer le véhicule et j'attends. Donc, à l'entrée, je dis, je suis attendue par le brigadier. Je donne son nom. Et là, on me dit d'attendre, j'attends. Et là, je vois sur les hauteurs de ce commissariat qui est vitré, au-dessus de l'accueil, un homme qui me regarde. Et là, donc, il arrive vers moi et il me dit « Bonjour ». Donc, je vous mets en audition, on va discuter. Mais il est très froid. Très, très froid. Mmh. À savoir une chose, c'est que je l'ai déjà eu au téléphone pour savoir où en était l'enquête.
Ça s'est passé comment au téléphone ?
Alors, au téléphone, c'est charmant au départ. C'est charmant. Il sait que je suis la sœur d'un fonctionnaire de police qui est en région parisienne, qui est gradé. Il sait que j'ai aussi un oncle qui était à la DGSP. Donc, je dirais qu'il est poli, correct. Donc moi, je suis face à un homme, le jour où je le rencontre, je ne comprends pas son comportement. Il a une froideur. Là, mon conjoint arrive et il lui dit « Vous, vous restez là, je vous entendrai après. » Et donc, je suis conduit à l'étage, dans un bureau. Là, je dirais que même dans l'ascenseur, la cadence est nommée. Il faut savoir que mon avocate, qui est aussi l'avocate du viol de Marie, doit me rejoindre. Donc, je suis aussi au moment des réservations de l'hôtel que je suis en train d'annuler. Donc, je m'excuse régulièrement auprès de lui en lui disant « Excusez-moi pour le téléphone, je n'ai pas le choix. » Donc, il me dit « Pas de problème, etc. » Il y a une ambiance assez extraordinaire. En réalité, ce n'est pas vraiment moi qui vais poser les questions. Il va poser des questions. Ce sont ses fonctions. Mais pas les fonctions qu'on pose dans une affaire. C'est « Qu'est-ce que vous savez ?» C'est surtout « Où vous avez eu ces renseignements ?» Et d'ailleurs, dans l'affaire de Mayotte, qui a été jugée ici par mandat européen, il y a mentionné qu'au sein du commissariat de Clermont-Ferrand, je peux y avoir accès et avoir accès à tous les dossiers. Ils vont diligenter une enquête de sécurité. Parce qu'apparemment,
ils vous font dire ça, en fait.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est qu'il est persuadé que par rapport au fait que j'ai mon oncle qui était à la DGST, que j'ai mon frère qui est fonctionnaire, il y a les portes qui me sont ouvertes et que j'ai accès à ces dossiers. D'ailleurs, il me le dira. Je vous interdis de venir fouiller dans mes dossiers. Mais je le regarde avec stupeur. Déjà, ma fille a été violée. On est dans une enquête. Et il me sort ça. Je lui dis, mais pardon. Mais je lui dis, mais attendez, on est dans l'aberration totale. Donc le ton est lancé. Donc, c'est là que je lui dis, avez-vous eu les résultats des laboratoires ? Et il me dit, je n'ai pas à vous en parler. Donc, on est dans cette ambiance. Je garde mon calme. Et comme je ne perds pas mon sang-froid, il finit par me dire, là, face à moi, dans son bureau, que je n'ai pas l'air d'être touchée par le viol de ma fille, que j'ai même l'air de m'en amuser. C'est choquant.
Ouais, donc, c'est tendu entre vous. C'est très tendu.
Exactement.
Entre vous. D'accord.
Tout à fait.
Et votre fille pendant tout ce temps-là, en fait, elle a été entendue par la police, par ce brigadier.
Marie a été entendue par ce brigadier pour donc sa plainte. Ouais. Elle a été mise en confrontation après avec son violeur.
Oui.
Tout simplement.
D'accord. Comment ça s'est passé ? Il a reconnu le viol ?
Alors, tout ce qu'on saura, c'est qu'au départ, on n'a pas accès au dossier. C'est très, très difficile. Très, très difficile. Nous allons donc changer 3 fois d'avocat. Donc, de 2 avocats de Clermont.
Pourquoi ?
La première avocate que nous avions, nous la connaissions depuis 7 ans, lorsque nous avons nommé un nom de mise en cause, de complicité, nous avons compris qu'on avait un problème. Voilà. Sa réaction a été impressionnante. Bon, il faut savoir
ça veut dire quoi, ça, en gros ? Ça veut dire, appelons un chat un chat, ça veut dire que dans ce viol, le deuxième garçon, le nom du deuxième garçon qui accompagnait le violeur a posé problème pour votre avocate.
Exactement. Nous l'avons tout de suite constaté. Elle était dans un état, surtout que nous la connaissions. Elle venait en tant qu'amie aussi à l'hôtel. Son conjoint avait un chalet en face de notre hôtel qui était un chalet de location. Donc un rapport de avocat, mais aussi proche.
D'accord. Est-ce que ce jeune homme faisait partie un peu de la jeunesse dorée de Clermont-Ferrand ? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a...
Je dirais que ses parents ont de bonnes situations.
D'accord.
Voilà, tout à fait.
Au bout du compte, parce qu'on va en venir, on va revenir à votre situation à vous. Mais moi, j'aimerais d'abord qu'on règle l'histoire de ce pourquoi la plainte de votre fille n'a pas été suivie, parce que c'est évidemment très grave.
C'est très grave.
Une
oui,
jeune fille
fait,
qui dit qu'elle a été violée. Je l'ai dit souvent dit sur cette antenne. Je crois que deux plaintes sur 10 vont au bout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même terrible.
Et encore. Est-ce que ce n'est pas une sur 10 ?
Je crois que c'était 2 sur 10, mais à vérifier. Vous avez raison, parce que j'ai vu un doc, ça fait un mois et demi que je l'ai vu sur Arte TV, en replay. Je pense qu'on peut le trouver en permanence d'ailleurs sur Arte. Et c'est vrai que ça fait froid dans le dos de voir qu'aujourd'hui, avec le nombre de viols qu'il y a, parce qu'il y a chaque jour, malheureusement, des femmes sont agressées et violées en France.
Tout à fait.
Plaintes qui sont déposées, et qui ne vont pas au bout. Et c'est terrible.
Alors, on peut comprendre le manque d'effectifs, on peut comprendre beaucoup de choses. Simplement, là, nous, quand nous avons réussi à récupérer le dossier de Marie, c'est-à-dire son nouvel avocat qui est sur Paris, un très grand avocat que je n'aimerai pas, il m'a demandé de ne pas le nommer. C'est lui qui, lorsqu'il aura parlé à la sœur de Marie, parlera ouvertement. J'ai été mis au courant de ce qu'il y avait dans le dossier. Quand vous lisez ce qui vous a été interdit d'avoir avec les deux avocats précédents, qui étaient donc sur Clermont, que le mis en cause, par ses propos, reconnaît le viol, là vous bondissez.
Sur procès verbal, il le reconnaît à la police, d'accord.
Tout à fait, et que même dans des échanges avec une personne avec qui il est en train de communiquer, c'est flagrant. Donc, en réalité, son avocat parisien, évidemment, a fait l'année dernière. Donc, il a interjeté la décision de non-lieu déposée, donc une demande de renvoi. Nous attendons depuis un an que soit donc fait cette commission pour renvoyer le dossier devant un juge d'instruction, soit dépayser le dossier, soit nommer un juge d'instruction.
Est-ce qu'il y a une chance que ça soit suivi ?
Alors, y a-t-il une chance ? En vue des éléments, de tout ce qu'il y a, parce qu'à savoir une chose, c'est que, à l'antenne, les gens vont comprendre, et vous-même, nous avons fait sceller le lit de Marie et mis en sécurité les draps,
oui.
Tout l'ensemble. C'est-à-dire que les ADN
sont toujours là.
C'est sous scellé depuis 42 mois. Et d'autres éléments, de toute façon,
C'est assez inhabituel, Anne-Claire. C'est assez inhabituel, mais ça fait partie de procédures qu'on peut suivre. On va marquer une pause pour l'info qui arrive sur Europe 1.
D'accord.
Et puis, on va aborder ensuite le pan de l'affaire qui vous concerne. Vous restez avec moi et puis on se retrouve après l'info, d'accord ?
D'accord, très bien, Olivier.
Nous sommes avec Anne-Marie, Anne-Claire, pardonnez-moi. Je ne sais pas pourquoi je veux vous appeler Anne-Marie. Anne-Claire qui nous appelle ce soir pour nous parler du viol qu'a subi votre fille il y a 42 mois, mais surtout d'une enquête visiblement orientée, étouffée, selon vous, bâclée en tout cas, avec ce nouvel avocat pris à Paris, un grand avocat dont vous tairez le nom et on vous comprend pour l'instant, avec ce lit donc, que vous avez scellé, que vous avez mis comme dans une enquête criminelle où on gèle une scène de crime pour que soit préservé l'ADN au moins de l'agresseur, du violeur, qui a donc avoué par deux fois le crime qu'il a commis. C'est ça qui est très étonnant dans votre histoire, en fait, Anne-Claire.
Alors, à savoir, c'est qu'il avoue pas en disant « j'ai violé ».
Alors, il avoue quoi ?
En réalité, c'est la manière dont il le fait. La manière dont il emploie ces
c'est-à-dire,
termes. La manière dont il va expliquer ce qui va se passer cette nuit-là. Tout le déroulé. C'est-à-dire que évidemment, c'est la victime, vous savez, toujours consentante.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, en gros, c'est de la faute de votre fille, finalement.
Là, voilà. Mais il va employer des termes qui vont malheureusement le mettre à mal. Et il va lâcher certains éléments qui, de toute façon, amènent à des aveux de viol.
D'accord. Est-ce qu'il a été mis d'ailleurs, sur écoute son... Vous faisiez allusion tout à l'heure à des éléments téléphoniques, visiblement des enregistrements. Est-ce à dire qu'il a été mis un temps sur écoute?
Non, pas du tout. Non, d'accord. Pas du tout. C'est-à-dire que même ça, lorsque j'avais discuté avec ce brigadier, donc un mois après le viol, donc ces fameux 2 heures, je lui avais dit, mais attendez, les échanges téléphoniques, systématiquement, vous allez avoir, par rapport à ce que je vous emmène, le film. Les fadettes sont utiles, donc ces fameux enregistrements que gardent les opérateurs. Il faut savoir que dès l'instant que cette information est donnée, nous avons quelque chose d'extraordinaire, puisque ce sont des jeunes. Vous savez que la jeunesse clermontoise se fréquente. Donc immédiatement, nous avons à avoir l'information qu'ils ont tous détruit la puce de leur téléphone et demandé. Il y en aura même un qui aura l'audace de me dire qu'il a changé parce qu'on lui a volé sa puce dans son téléphone.
Bien sûr. Ça arrive tous les jours, vous savez bien. Ça arrive tous les jours qu'on vole les puces dans les téléphones.
Mais surtout, en plus, comme par hasard, nos protagonistes. Hein. Oui, comme par hasard, j'ai donné cette information. Donc, il y a plein de choses comme ça dans l'affaire.
Non, bon, ce qui est surprenant, parce que malheureusement, nous n'avons pas une heure et demie pour parler de votre affaire, Anne-Claire, on comprend que vous soyez révoltée et que, surtout, je pense à Marie, je pense à votre fille, moi, qui doit être blessée de ne pas être reconnue comme victime et obligatoirement, donc, salie par le fait qu'on n'ait pas entendu et cru à sa parole. Mais c'est assez commun. Finalement, ça se répète dans ce pays. Les femmes
N'oubliez
peuvent
pas,
être...
Olivier, si je peux me permettre de vous couper, Marie est en faculté de droit, rentre en master. Donc, déjà, c'est un courage exceptionnel qu'elle a de continuer de faire ses études de droit en sachant comment on bafoue les victimes. Donc, c'est vrai
elle
que...
Elle continue où à Majorque ou en Espagne ou elle continue en France?
Non. Elle est, là, de toute façon, elle va quitter Clermont-Ferrand pour entrer dans un master, donc dans une région que nous n'allons pas nommer.
Oui.
Voilà. Mais à savoir, c'est qu'elle a ce courage de continuer ses études. Malgré ce droit qui lui est interdit à la justice. Et c'est pour ça qu'on se bat pour elle.
Est-ce que vous avez fait appel à l'IGPN, en fait, parce que vous
À
êtes...
trois reprises. À et trois reprises. Nous. Alors, à savoir, dès l'instant que j'ai quitté le bureau de ce brigadier, un mois après le viol, je me suis mise sur la plateforme internet de l'IGPN. À l'époque, je croyais que ça arrivait sur le central de Paris. En réalité, ce sont les services de Clermont-Ferrand qui gèrent. On n'a pas eu de réponse. Je l'ai fait une deuxième fois. À savoir, c'est que je l'ai fait après une troisième fois, donc un peu plus tard, directement sur Paris, mais vous étiez à l'époque avec les Gilets jaunes, donc énormément de plaintes. Donc, ils ont renvoyé la plainte sur Clermont-Ferrand. D'ailleurs, dans l'affaire que nous avons sur Majorque, qui diront que l'IGPN n'a rien, il a fait son enquête, etc. etc. C'est très rigolo, d'ailleurs, si on peut le prendre comme ça. Mais il faut savoir qu'en janvier 2020, début janvier 2020, j'envoie par DHL une énorme enveloppe où je dénonce tout à l'inspection générale du ministère de la Justice. Je dénonce tout avec tous les éléments, avec les preuves. Et là, par contre, je vais avoir les foudres. Parce que à la fin du mois, le 31 janvier 2020, je vais rencontrer cet avocat parisien dont je vous ai parlé, sans le nommer. Et donc, ce qui se passe, c'est que le 7 février, Marie va aller au greffe du tribunal de Clermont pour donc donner comme quoi elle change d'avocat et que ce sera cet avocat-là. Le mandat européen et les plaintes, tout va démarrer de là. La date du 7 février 2020 est le déclencheur de « il faut la faire taire ».
Et pourquoi ?
Il faut l'interpeller.
Pourquoi, en fait ?
Parce que, en réalité, dans ce qu'on a dans le dossier, on me dit que ils disent à la justice espagnole que l'enquête menée démontre que Madame Rabot, donc moi-même, la maman de Marie, je rentre au commissariat, j'ai des contacts avec des fonctionnaires de police, j'ai accès à tous les dossiers, à toutes les victimes qui auraient déposé plainte, etc., etc. Il y a une espèce de psychose, alors que je suis, comme je vous dis, depuis mars 2018 à Majorque.
Vous êtes à Majorque pourquoi, en fait ? Vous avez décidé de déménager à Majorque ?
Non. Alors, ce qui s'est passé, ça s'est fait dans la précipitation. Nous avions des réservations. Évidemment, Marie s'est fait, donc, comme je dis, violée dans la nuit du 9 au 10 décembre. Vous imaginez bien que notre hôtel était quasiment plein pour la période de Noël. À cette époque-là, quand nous allions rentrer, nous étions en vacances à Majorque. Mon conjoint donc, est collaborateur avec le petit dernier qui est scolarisé ici à Majorque. Nous passions donc, quand l'hôtel était fermé hors saison, hiver et été, nous passions donc nos vacances à Majorque.
L'hôtel, parce que vous avez un hôtel, c'est ça, qu'on comprenne bien.
À Superbès,
d'accord,
tout à fait, à 50
d'accord.
km de Clermont-Ferrand.
D'accord.
Voilà, donc évidemment, nous sommes rentrés précipitamment en France. Et là, bon, bah, on a été dans la violence de l'affaire immédiatement, on va dire. C'est ce que Marie, au départ, nous a caché son viol. Elle voulait gérer, nous montrer qu'elle était adulte et que surtout, par le biais de ses études, pouvoir affronter ça. Et je vais vous dire une chose qui est horrible. Elle m'a appelée, j'étais à Majorque, elle était donc à Clermont-Ferrand, et elle m'a dit, « Maman, avant d'arriver pour les fêtes de Noël, j'ai quelque chose à te dire de grave. » Et je lui dis, « Je t'écoute, ma chérie. » Et elle me dit, « Non, je ne peux pas, je t'envoie un message. » Et là, par message, elle me dit, « Maman, j'ai été violée. » C'était le jour de Noël. Et elle allait arriver. Vous pouvez imaginer l'effroi d'une mère ou d'un père.
Bien sûr.
Évidemment, nous n'avons pas fêté Noël. Depuis, nous ne fêtons plus Noël. Nous le faisons. Le petit dernier qui peut avoir 15 ans, avait 11 ans à l'époque. Évidemment, c'est dur d'expliquer ça à un enfant de 11 ans. Voilà. Et du coup, ben, nous avons décidé après de retourner donc, à Clermont-Ferrand, essayer de disperser la clientèle qui avait réservé chez des confrères, dans d'autres stations, dans la station de Superbès. Beaucoup ont compris parce que tout de suite, j'ai dit, il faut qu'on explique pourquoi. Et on a commencé à refuser aussi les réservations. Excusez-moi, c'est mon chien. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai rencontré... oui, nous en avons 7 gros molosses.
D'accord.
Pour notre protection. Tout simplement.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet vous concernant, parce que voilà, on a compris le fond de l'histoire. Pourquoi, aujourd'hui, êtes-vous à Majorque et donc, j'entends que je vous dis que vous avez un chien, vous me dites j'en ai 7 pour ma protection. Que se passe-t-il avec le procureur de Clermont-Ferrand? Comment un procureur en arrive-t-il à demander à vous faire taire et vous obligé de déménager en Espagne? Expliquez-moi ça.
Alors, ce qui se passe, c'est après cette rencontre avec ce brigadier, un mois après le viol, on a très vite compris, en réalité, puis le classement qui a suivi très vite derrière. J'avais reçu donc un courrier du procureur de la République. Donc, mon comptable a reçu, puisque c'est lui qui recevait notre courrier, puisque nous étions partis. Comme quoi, je devais absolument pas agir sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je dénonçais ce fonctionnaire en nommant son nom, le coupable du viol de ma fille. Donc, il a déjà commencé à me prévenir que j'avais intérêt de me taire, que ça pouvait se retourner contre moi.
D'accord.
Alors déjà, c'est assez étonnant parce que je ne l'ai jamais fait. Donc déjà, la mesure...
Vous n'avez jamais fait quoi?
Donner les noms, que ce soit de ce brigadier,
d'accord,
et encore moins...
Sur Facebook, vous dénoncez une enquête bâclée, vous dénoncez un fonctionnaire
de
police.
Alors, je ne dénonce pas une enquête bâclée. Je me dis que je me bats pour Marie, qu'on
d'accord.
se bat, qu'on ne comprend pas, que j'ai écrit, et je ne le cache pas, je mets même les réponses du ministre de la Justice de l'époque, d'Edouard Philippe, qui me répond aussi. J'écris au bureau d'Emmanuel Macron, j'ai une réponse. Donc, je mets tout ça sur ma page Facebook. On me dit même que le préfet est mis au courant, donc doit prendre contact avec moi. Je n'aurai jamais, jamais de nouvelles du préfet. Jamais. Jamais, jamais. Donc, en réalité, j'écris, mais j'ai des réponses. Partout où j'ai pu taper aux portes et où je dénonce. Mais jamais je n'ai mentionné le nom, que ce soit du mis en cause, comme de ce brigadier. J'explique qu'on a fermé l'hôtel, que j'ai quitté l'hôtel, qu'on le met en vente, qu'on ne reviendra pas parce que on sent que de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on est la cible. Alors, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de choses de faites au niveau des impôts, au niveau des comptes en banque. On va vraiment organiser quelque chose. Mais surtout, il faut savoir...
Je ne comprends rien à ce que vous dites, Anne-Claire, parce que vous dites des choses, mais vous ne dites rien. Il va y avoir des choses au niveau des impôts. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
En réalité, le procureur va diligenter une enquête au niveau des impôts, au niveau de plein de choses. Nous l'avons dans l'affaire qui concerne Majorque. Il va se renseigner partout, jusqu'à ce commandant de police qui, le 7 février, jour où Marie va déposer au greffe du tribunal de Clermont-Ferrand le changement de son avocat en nommant celui de Paris, dont on a parlé. Là, immédiatement, eh ben, il se passe quoi? Je reçois un mail sur une boîte mail qui ne m'appartient plus, puisque j'ai démissionné, j'ai cédé mes parts de la société, donc de la direction du Chamois. Je vais être mis au courant que sur cette boîte mail, qui est une boîte mail commerciale, j'ai reçu une convocation par les services de police de Clermont-Ferrand pour des menaces de mort, etc., etc. Premier envoi, le 7 février,
d'accord,
c'est-à-dire quelques heures après le dépôt du nouvel avocat de Marie.
D'accord. Bon, ce qui est peut-être un hasard, hein, de toute façon. Mais en tout cas, vous êtes accusé d'avoir menacé ce fonctionnaire de police, donc, de mort. Ce sont les accusations qu'on porte.
Physiquement, sur les réseaux sociaux aussi, sur le territoire français, durant 2 ans et demi, alors que je suis à Majorque.
Je n'ai toujours pas compris ce que vous faites à Majorque depuis 2 ans et demi.
Nous sommes venus vivre à Majorque pour pouvoir gérer en toute tranquillité l'affaire de Marie, pas avoir de pression, et surtout pouvoir librement être en sécurité. Parce que lorsque un policier, un commandant qui vous convoque, vous lui dites si vous voulez que je vienne en France, vous me payez le billet, et puis vous me payez l'hôtel, etc., etc. Donc il me dit non, c'est à vous de vous déplacer. Et je lui dis non. Il me dit, j'exige votre adresse et votre numéro de téléphone là-bas. Mais je lui dis, pourquoi vous n'avez aucune action sur le territoire de Majorque? Et c'est là que je lui dis, je suis résidente, passée. Donc, et c'est là qu'il m'a dit, le procureur va prévenir la police, ils viendront vous interpeller à votre porte. Donnez-moi votre adresse. Mais je lui dis, vous n'avez aucun pouvoir à Majorque. Il faut passer par un mandat européen.
Tout ça est tout de même incroyable, partant d'un viol et de la plainte de votre fille. Oui, non, mais... Je trouve ça incroyable qu'il y ait eu une escalade telle que celle-ci, vous comprenez?
Mais bien sûr.
Qu'est-ce qu'il a, ce fonctionnaire de police? Il y a quelque chose qui s'est passé qui a provoqué sa paranoïa, ou qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis?
À notre avis, je dirais que peut-être il a des ordres, parce qu'au départ, il avait l'air d'être un fonctionnaire de police qui avait l'intention d'enquêter. C'est une supposition, bien entendu. Nous débattrons devant la justice de tout ça, mais c'est quand même celui-là qui va signer des plaintes. Alors, pareil, nous avons des plaintes à tout va à partir de la date où je vous mentionne, le 7 février. Toutes les plaintes portent le même numéro de plainte.
Contre vous, Anne-Claire.
Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Avec des détails... Nous avons même une plainte, c'est sur convocation du procureur, des actes que fait Madame Anne-Claire Rabault. Nous avons tout ça. Donc ici, évidemment, la justice, un matin, début août l'année dernière, j'ai un fonctionnaire de police qui se présente devant notre portail et qui me donne une assignation par mandat européen présentée devant la justice ici à Majorque.
Ce que vous avez fait.
48 heures après, bien sûr, je me suis présentée donc à ce qu'on appelle la fiscalia justicia ici, c'est-à-dire le tribunal. Alors au départ, je me suis dit, bon, fiscalia justicia, ça veut dire que fiscalement, ils me mettent une enquête, on n'a rien à cacher, c'est pas grave, on a les comptes, la maison, etc. C'est peut-être parce qu'ils veulent savoir comment la financer, alors que tout est clair, tout est net, etc. Mais en réalité, non, on va me présenter, donc j'aurai une traductrice, c'est la loi ici, je suis accompagnée d'une traductrice, et là, on va me présenter un dossier. Et on va me dire quelles sont. Donc je sais que ça vient du procureur. Ça, c'est marqué dans le document que ce policier me donne 2 jours avant. Et là, donc, je comprends ce qui se passe. Et j'ai avec moi le dossier de Marie. Donc je commence à parler à la personne qui me reçoit dans ce tribunal, qui donc me dit qu'il faut que je prenne un avocat, que je suis accusée donc par mandat européen, que les faits sont graves. Et c'est là que je vais découvrir ce que vous avez sous les yeux, ce que je vous ai envoyé. C'est-à-dire que ce procureur met que j'accuse ce fonctionnaire de police, que je le menace, et que surtout ma fille a déposé contre un inconnu. Et donc tous ces articles de loi, qu'on me retire mes armes, qu'on me juge, pour tous les faits qui sont graves. Et là va se passer une chose extraordinaire. Je vais être convoquée pour le 24 août. Parce que logiquement, ils ont demandé le dossier. Parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Ils ont un mandat européen comme quoi ils doivent me juger. Mais il n'y a rien d'autre. Juste pour... que vous avez sous les yeux.
Le 24 août prochain.
Le 24 août, l'année dernière.
L'année dernière, d'accord.
Et donc, évidemment, on ne peut pas me juger, il n'y a pas de dossier. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont la feuille que vous avez sous les yeux. Le 24 août, on décide donc que je vais être représentée devant la justice. Ils ont demandé le dossier, ils n'ont toujours pas le dossier. On va me dire, vous ne rentrez pas au tribunal puisque nous n'avons pas de dossier. On vous reconvoque le 1er septembre 2020. Je me représente avec mon avocat, donc ici j'ai pris un avocat aussi, qui est en communication avec notre avocat de Paris, qui me représente aussi sur le territoire français. Et là, pareil, on me dit, on ne peut pas vous juger, on n'a pas reçu de dossier sur le mandat européen. On vous reconvoque le 16 septembre. Et là, pareil, on ne me reçoit pas.
Ah oui, alors accélérez, allons jusqu'à la fin.
Et donc je vais être comme ça pendant 4 fois, on va me faire revenir. Et le 5 octobre 2020, il se passe une chose, c'est que là, on va me juger. Parce qu'ils ont reçu un dossier. Et là, on se rend compte que les dépôts de plainte de ce brigadier ont tous le même numéro. ont tous le même numéro et que c'est une aberration totale. Ici, ils ont fait une enquête, ils ont bien vu que je n'ai pas quitté l'île. Donc, ils vont demander à la France quelles sont les dates où j'étais soi-disant en France. Évidemment, jamais la réponse ne leur sera donnée.
D'accord.
Donc, je vais être jugée innocente de tous les faits d'accusation, puisque de toute façon, je n'ai pas pu matériellement me téléporter en France.
D'accord. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on va stopper là. Et puis, je vais bien prendre connaissance de ce que vous avez envoyé à Natacha, y compris ce qu'il y a sur votre page Facebook. Mmh. Si vous le voulez bien, vous donnerez à Natacha le nom de votre avocat à Paris, duquel on va se rapprocher. Je vais me rapprocher de lui pour bien comprendre tout ça. Et,
Je lui demanderai d'abord.
D'accord,
si
bien évidemment. Bien
je
évidemment.
D'abord.
Vous l'avertirez.
Mmh,
et auquel cas, nous donnerons suite à nouveau pour que celles et ceux qui écoutent ce soir sachent comment tout ça s'est terminé. Et surtout comment tout ça va avancer. Parce que si vous dites vrai, Anne-Claire, concernant déjà l'enquête qui a été faite, en tout cas bâclée sur Clermont-Ferrand, et si en plus de ça, vous faites l'objet d'un harcèlement de la part de la police, écoutez, on donnera suite et on vous redonnera la parole, bien évidemment. En tout cas, merci de nous avoir appelés ce soir à l'antenne d'Europe 1. Et je ne manquerai pas de vous redonner des nouvelles une fois que j'aurai pris connaissance de pas mal d'éléments, d'accord ?
Merci de m'avoir donné la parole.
Je vous en prie, passez une bonne soirée. Au revoir, Anne-Claire.
Vous aussi, au revoir.